Session du Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 17 mai 1996, troisième conférence.
On m'a demandé de revenir un peu sur un point, je crois que ça a été abordé dans les petits groupes pour répondre aux questions, sur la distinction dans l'acte humain entre l'intention de vie et le choix. Donc j'y reviens un instant, vous voyez, tel que le Père Philippe vous l'a présenté ce matin à partir de l'expérience de l'amour d'amitié. Vous voyez, on voit bien que l'éthique humaine fondamentale se fonde sur, enfin, part, a comme point de départ l'expérience de l'amour d'amitié, parce qu'elle est l'expérience où je peux accomplir un choix libre et pleinement responsable. Oui, c'est les deux caractères qu'on a relevés ce matin. Le choix implique une liberté, le choix implique une responsabilité et donc une fidélité. Et pourquoi est-ce que c'est le choix humain parfait? Parce qu'il porte sur une personne. Vous voyez, c'est donc très délicat, parce que comment puis-je dire à la fois que l'ami, la personne que j'aime d'un amour spirituel, est à la fois une intention de vie, et qu'en même temps c'est l'objet d'un choix? Or dans le choix, oui, si le choix est libre, ce choix c'est mon choix, cela vient de moi. Et donc par conséquent, il y a comme une espèce d'apparence, j'allais dire de contradiction, comprenez bien. Il y a deux aspects différents. Oui, l'ami, quand on dit qu'il a une intention de vie, c'est parce que je découvre la personne que j'aime comme une fin, c'est-à-dire un bien. Le bien est ce qui suscite l'amour. Je suis attiré par un bien. Je découvre une personne qui a une bonté, qui m'attire. C'est pour ça, vous voyez, j'y reviendrai tout à l'heure à propos de l'éthique religieuse. Tout amour présuppose une certaine connaissance. Et il faut avoir découvert la bonté de quelqu'un pour être attiré par cette personne. L'amour spirituel, c'est la réponse, et la réponse est volontaire, à l'attraction qu'un bien exerce sur moi. Vous voyez ce que le Père vous disait ce matin en disant, comment se fait-il qu'on est attiré par telle personne et pas par telle autre? Et l'amour spirituel est quelque chose de très mystérieux. Il implique quand même bien un discernement de l'intelligence qui découvre une personne comme un bien personnel, quelqu'un qui m'attire, quelqu'un qui est mon bien. Vous voyez, Aristote se pose déjà cette question. Il dit, est-ce que les hommes aiment ce qui est bon pour eux ou bien un bien réel, objectif? Et il dit, pour l'homme parfaitement homme, son bien personnel et le bien réel coïncident. Mon bien, le bien que j'aime, il est un bien réel, objectif. Quand je découvre que l'ami, ce bien que j'aime, est une fin, c'est ce qui suscite une intention de vie. Donc, vous voyez, une intention de vie qui est capable de mobiliser toutes mes forces, toutes mes capacités. Qu'est-ce que c'est que la fin? La fin, c'est un bien premier dans l'ordre du bien, donc capable de relativiser tous les autres. Oui, je découvre une intention de vie quand je découvre dans la personne que j'aime un bien fin, c'est-à-dire capable de relativiser tous les autres. Et Aristote fait cette remarque, il a cette expression très, très étonnante, il dit « La fin, c'est ce qui est toujours capable de susciter un choix libre et jamais en vue d'autre chose. » Mais c'est très étonnant, hein, le « toujours » et le « jamais ». Toujours capable de susciter un choix libre, parce que c'est un absolu, vous voyez, c'est au-delà du conditionnement du temps et du lieu, c'est toujours. Et jamais en vue d'autre chose, la personne que j'aime, si elle est une fin, n'est pas un moyen que je peux utiliser. Elle est un absolu, quelque chose qui attire toute ma vie, qui donne donc son sens à toute ma vie. Vous voyez, la fin, étant source d'une intention de vie, donne le sens, la signification profonde et l'orientation de ma vie. Oui, Aristote va jusqu'à dire, vous voyez, que quand on n'a pas découvert une fin, tant que la fin n'est pas découverte, il n'y a pas de vie morale. L'amour comme tel est au-delà de la morale. Il est naturel. Naturellement, j'aime le bien. Mais quand je découvre un bien comme fin, ça implique un engagement qui est une intention de vie. Et donc là naît ici l'acte moral, oui, puisque je m'engage. Oui, donc on peut dire, c'est pour ça que je commençais là-dessus, parce que la question portait là-dessus, hein, comment différencier l'intention de vie et le choix ? L'intention de vie, c'est bien quelque chose qui m'arrache à moi-même. Oui, je suis comme tout entier attiré par une fin, par un bien tellement absolu qu'il donne son sens à toute ma vie, et qui est donc capable de mobiliser toutes mes capacités d'aimer, toutes mes forces. Oui, tant qu'on n'a pas fait cette découverte, il n'y a pas d'amitié. Hein. Il peut y avoir de multiples amours spirituels par rapport à de multiples biens. Mais découvrir, oui, il y a un ordre. Un bien fin, c'est-à-dire un bien premier, qui est donc source d'un ordre dans ma vie, donc d'un discernement. Oui, ça implique donc une coopération de l'intelligence et de la volonté. Ce bien que j'aime, cette personne que j'aime, est-elle capable d'orienter toutes mes forces, de mobiliser tout ce que je suis ? Et c'est pour ça que le Père Philippe vous a dit ce matin qu'il y a ici une première liberté, une liberté d'accepter ou de refuser un amour. Ça implique un discernement de l'intelligence. Oui, le passage du bien à la fin, de l'amour spirituel à l'intention de vie, exige un discernement de l'intelligence. Oui, de découvrir un bien comme une fin. Et ce bien étant une fin, est donc capable d'ordonner ma vie, oui, donc de lui donner son sens, son orientation profonde. Il y a ensuite fait ce passage de l'intention de vie au choix. Et oui, là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que dans le choix, oui, ce n'est plus seulement accepter un bien comme une fin, mais c'est choisir l'autre positivement et m'engager à son égard. Ce qui exige, on l'a vu ce matin, la réciprocité. Vous voyez, c'est très intéressant de voir ça. Oui. Dans l'intention de vie, je suis comme, je dirais, comme complètement attiré. J'accepte d'être attiré. J'accepte d'être dépassé par quelqu'un qui donne son sens à toute ma vie. Ce qui est très difficile à accepter. Et comme hein, on disait ce matin, il faut accepter de perdre son autonomie. Celui qui a le très fort sens de son autonomie a beaucoup de mal d'accepter cela. D'accepter cette dépendance que réalise un bien fin. Et c'est pour ça que la fin est source pour moi d'un dépassement de moi-même. C'est saint Thomas qui a cette petite remarque très étonnante. Il dit « L'amour est source d'extase. » Pas d'extase charismatique, hein, pas en premier lieu. D'extase au sens de sortie de soi. Et quand on aime vraiment profondément quelqu'un à ce point, hein, parce que c'est une fin, c'est quelque chose qui donne sens à ma vie. Et donc qui me fait me quitter moi-même, me dépasser moi-même. C'est-à-dire que si vous mettez le primat sur votre autonomie, c'est impossible d'accepter cette dépendance. Oui, au contraire, dans le choix, je ne suis pas seulement celui qui accepte d'être attiré, mais je dois moi-même m'engager. Ce qui implique un discernement nouveau par rapport aux moyens qui me permettent d'atteindre cette fin. Vous voyez, donc la première distinction entre l'intention de vie et le choix, c'est la distinction entre la fin et les moyens pour y parvenir. Je choisis librement les moyens pour atteindre la fin qui donne son sens à toute ma vie. Il y a donc, vous voyez, un second acte libre. Il y a non seulement une liberté, on dira, d'accepter, c'est-à-dire une liberté d'exercice, mais il y a une liberté de choix qui implique qu'avec intelligence, je découvre et je discerne les moyens pour atteindre la fin qui donne son sens à toute ma vie, que j'ai acceptée. Et ça implique entre les deux le conseil, ou bien ce qu'on appellera, vous voyez, la délibération. C'est pour ça qu'on parle d'un choix délibéré. C'est-à-dire un choix qui implique une réflexion de l'intelligence, un conseil, et le conseil c'est d'abord avec moi-même, vous voyez, je prends conseil. Hein. C'est-à-dire, je prends un petit peu de recul et je réfléchis sur les moyens. Quels sont les moyens pour atteindre la fin ? C'est-à-dire le bien ultime qui donne son sens à toute ma vie. Quels sont les moyens que j'ai pour en vivre concrètement ? Et ça implique un conseil. Et ce conseil qui est d'abord réfléchir en soi-même, délibéré, il peut accepter de recevoir le conseil d'un autre qui a plus d'expérience. Et c'est pour ça que là, il y a ici un, une différence très très nette entre l'homme comme artiste et l'homme moral. L'homme artiste, dans son art, ne prend pas conseil. Vous n'allez pas dire à un peintre, écoute, hein, pose tes pinceaux, je vais te donner quelques petits conseils pour voir comment il faut faire. Il vous renvoie promener et il vous vide de son atelier. Il a raison. Et pourquoi ? Parce que l'artiste est commandé par une inspiration, par une idée qui est la sienne. Et comme dit saint Thomas, il y a les voies déterminées de l'art. L'artiste est un homme extrêmement impératif quand il est inspiré, quand il a son idée, voyez, il a son projet. Vous savez ce que l'intention de vie, voyez, on vous a dit ce matin, ne confondez pas le projet et l'intention. L'intention, c'est par rapport à une fin qui m'attire, une personne qui me dépasse. Le projet, c'est moi qui dis, voilà ce que je vais faire. Bon. L'artiste ne prend pas conseil, tandis que l'homme moral, parce qu'il sait que la fin est un absolu qui le dépasse, il sait prendre conseil pour découvrir les moyens qui lui permettent de mieux découvrir et de mieux atteindre cette fin. Et ce choix, voyez, il implique toujours deux critères. Le choix des moyens implique, d'une part, le regard sur la fin, d'autre part, le regard sur mes capacités pour atteindre cette fin. Voyez, l'absolu, c'est la finalité. Mais mes capacités sont différentes selon les jours. Voyez, si je suis un homme en pleine santé, je peux prendre des moyens beaucoup plus proches de la fin que si je suis un homme qui a, par exemple, qui a une fatigue. Et si je suis avec des très grandes limites, mes capacités sont réduites pour atteindre cette fin. Et donc je prends des moyens plus adaptés à moi. Il y a donc toujours deux critères, vous voyez, la fin que je poursuis, la personne qui m'attire, et puis les moyens que j'ai pour vivre effectivement de cette fin. Je prends un petit exemple, vous voyez, on le reverra à propos de l'éthique religieuse. Quand j'aime vraiment une personne, le fait d'être séparé dans le lieu ne change pas l'intensité de l'amour d'amitié. Mais on verra, c'est un problème très intéressant, d'ailleurs, que pose déjà Aristote. Est-ce que la séparation supprime l'amour d'amitié ? Il dit non. Vous voyez, c'est là qu'intervient la fidélité. C'est intérieur. Mais vous voyez, que les moyens pour vivre de l'amour d'amitié, si je suis loin de mon ami, ne sont pas les mêmes que si je suis proche de lui et que je peux mener une certaine vie commune. Ce n'est pas les mêmes moyens. Pourtant, c'est toujours la même fin. C'est toujours la même amour d'amitié. C'est toujours la même personne. Et donc c'est très intéressant ça, de voir que la fin, c'est la personne qui est un absolu, mais mes capacités, c'est les moyens dont je dispose pour y arriver. Il y a donc toujours deux critères, vous voyez, dans le choix. Et c'est là que je dois savoir prendre conseil, ce qui est le propre de l'homme prudent. Vous voyez, la vertu de prudence va venir m'apprendre à bien délibérer. C'est-à-dire à saisir avec justesse et discernement les moyens qui me permettent de vivre vraiment de la fin. Et donc, le propre de la prudence, c'est d'abord de maintenir l'absolu de la finalité, de garder cette lucidité sur ce qui est vraiment ma fin, c'est-à-dire sur ce qui donne vraiment son sens à ma vie. Et deuxièmement, de mieux avoir cette lucidité sur les moyens que j'ai, et de savoir les prendre à bon escient. Et au bon moment. Ah oui, ça, c'est assez facile à comprendre. Hein, voyez. La distinction entre la fin et les moyens, c'est la distinction propre de la morale. Mais il y a un problème qui se pose, et c'est comme ça que j'ai commencé tout à l'heure. Quand il s'agit du choix, non seulement d'un moyen, mais du choix de l'ami lui-même, quand je dis à quelqu'un, je te choisis comme ami, vous voyez que c'est très délicat, alors, ce problème. Comment puis-je dire que l'ami est à la fois une fin et quelqu'un qui, quand je le choisis, est forcément relatif à moi. Quand je dis « je te choisis », c'est moi qui suis source de l'acte. Donc je suis, en quelque manière, celui qui, j'allais dire, qui mesure l'ami, comprenez ce que je veux dire. Comme je mesure un moyen. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'en quelque manière, l'ami, dans l'expérience de l'amour d'amitié, il est à la fois fin et moyen. La fin qui attire et qui donne son sens à toute ma vie, et le moyen le plus approprié pour vivre de cette fin. C'est évident au point de vue de l'amour. Dans l'ordre de l'amour, il n'y a pas d'autre moyen que la personne elle-même qu'on aime. Ce ne serait pas digne d'une personne qu'on aime de prendre un moyen autre qu'elle-même pour l'aimer. Et c'est très intéressant cette distinction. Et ça fait comprendre beaucoup de choses au point de vue même de problèmes très actuels. L'amour n'admet pas d'intermédiaire. Et l'amour n'admet pas de médiation. Au point de vue d'un amour humain. C'est le propre de l'amour divin, vous le verrez, je pense, dimanche avec le père Philippe, c'est le propre de l'amour divin. d'impliquer des médiations. Et l'amour humain n'implique pas de médiation, vous voyez, il n'y a pas d'amour à trois. Je ne peux pas dire à quelqu'un, ah, tu aimeras mon ami pour moi-même. Mais non. L'amour est un lien unique et personnel qui implique un choix qui est source d'un certain secret, c'est-à-dire d'une connaissance unique et personnelle de deux personnes. Et ça ne se partage pas, vous voyez. Saint Bernard dit très bien ça. L'amour ne se partage pas. Et l'amour n'est pas quantitatif. Donc comment puis-je dire que l'ami, qui est une fin, est en même temps le moyen le plus adéquat pour vivre de cette amitié? C'est très important comme problème, vous voyez. Alors je crois, vous voyez, on peut peut-être poser cette réflexion, hein, et là on touche un problème philosophique qui même du point de vue historique, si vous voulez, a été extraordinairement important dans toute l'histoire de la pensée. Vous voyez, quand je dis, parce que je crois qu'il faut aller jusque-là pour bien comprendre la distinction entre l'intention de vie et le choix. L'intention de vie porte sur la fin. Le choix porte en premier lieu sur le moyen. Or, dans l'expérience de l'amour d'amitié, c'est dans l'ami lui-même que ces deux aspects de fin et de moyen, en quelque manière, se rejoignent. Oui, l'ami est une fin, il est donc un absolu qui donne sens à ma vie. C'est là l'aspect de la personne de l'autre. J'aime une personne, au-delà de tout le conditionnement passionnel, etc. J'aime une personne qui m'attire dans un amour volontaire, spirituel. Et puis, l'ami est le moyen le plus adéquat. Ah oui, on peut se poser cette question. Est-ce que ça ne se fonde pas sur la distinction de l'âme et du corps? Oui, parce que je viens de vous dire il y a un instant. La fin est un absolu qui est spirituel. Le moyen, ça dépend de mes capacités, notamment du lieu et du temps. Donc, de mon corps. Oui. Si je suis dans un lieu, c'est à cause du corps. Oui. Si je suis séparé de la personne que j'aime, c'est à cause de mon corps. Parce que dans l'ordre intérieur spirituel, l'amour n'est pas dans le lieu. Voyez. Mon âme n'est pas dans un lieu. Qu'est-ce qui me met dans un lieu? C'est le corps. Qu'est-ce qui me limite? C'est le corps. Qu'est-ce qui me donne certaines capacités ou certains moyens? C'est le corps. Et donc c'est très important parce que c'est bien la distinction fondamentale entre l'amour spirituel et la vie commune. Entre l'amitié et la vie commune. L'amour d'amitié est d'abord une fin. Et il exige une certaine vie commune qui engage le corps. Parce que vous voyez, si je peux parler avec mon ami, c'est à cause du corps. Si je peux lui serrer la main, c'est à cause du corps. Si je peux travailler avec lui, c'est grâce au corps. Et ça va très loin, vous savez ce que dit saint Thomas. Saint Thomas dit hein, qu'il n'y a pas d'amour naturel entre les anges. Chaque ange étant un esprit séparé, un esprit pur, est face à Dieu. Donc l'ange n'a qu'une éthique religieuse. Il n'y a pas d'éthique de l'amour d'amitié chez les anges. Et si on était des esprits séparés, on serait tout de suite face à Dieu. Ce qui permet l'amour d'amitié entre les hommes, c'est le fait qu'ils aient une nature humaine commune. Or ça, c'est le corps qui le permet. Et Aristote lui-même le dit déjà dans l'éthique. Il dit que l'amitié s'enracine dans la sympathie naturelle que les hommes ont les uns pour les autres, du fait même qu'un père peut, hein, qu'un enfant peut appeler son père père. Il dit l'amitié s'enracine dans l'affection naturelle que les gens ont les uns pour les autres, et principalement, dit-il, l'amour qu'un père a pour ses enfants, que des enfants ont pour leur père. Et c'est très beau. L'amour d'amitié s'enracine dans l'amour naturel. Or, l'amour naturel des gens les uns pour les autres, ça implique d'abord le corps et la génération. Et c'est très étonnant. La nature humaine commune qui est la nôtre, qui fait que nous pouvons nous rencontrer, nous parler. Et donc ça prend une qualité unique par rapport à l'ami. Parce que ce qui fonde la distinction entre la fin et le moyen, c'est la distinction entre l'âme et le corps. Donc vous voyez, on peut donc dire hein, que l'éthique humaine, par rapport à l'importance qu'elle accorde à l'intention de vie et au choix, se fonde radicalement sur la distinction de l'âme et du corps. Et c'est très important à comprendre. Et c'est là la grande différence entre Platon et Aristote. Pour Platon, il y a un dualisme entre l'âme et le corps. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'amitié pour Platon. Pour Aristote, il y a une union substantielle de l'âme et du corps. Et c'est pour cela que le premier bonheur de l'homme, c'est l'amour d'amitié. Et c'est très étonnant. Et la conception qu'on a des rapports de l'âme et du corps a une répercussion immédiate sur le problème de l'éthique. Ce qui est normal, vous voyez. Parce que c'est tout le rapport entre l'esprit et le sensible. Et ce qui permet donc, vous voyez, à l'ami d'être un moyen, c'est bien l'aspect du corps, parce que le corps va impliquer une certaine vie commune, donc vous voyez, un travail commun, hein, une rencontre, un temps, un lieu, etc. L'amour d'amitié n'est pas lié à un temps particulier. Vous savez, c'est ce que le Père Philippe vous disait ce matin, quand il parlait du clair de lune. Vous voyez, est-ce que vous n'aimez l'autre que quand vous êtes au clair de lune, dans une certaine perspective? Vous voyez, ça, c'est le corps. Et c'est très intéressant, ne ramenons pas l'amitié à la vie commune. C'est une des grandes confusions d'aujourd'hui. Oui. C'est important, oui. Donc, il y a deux aspects complémentaires là. Oui. La vie commune est ce qui permet d'exercer l'amour d'amitié. Mais la vie commune, sans une véritable intention de vie, n'a pas de sens. Elle est vide. Et donc, le travail commun, des rencontres, le temps, le lieu, tout ça, c'est grâce au corps. Oui. Oui. Si je dis que je rencontre mon ami pendant 5 minutes, vous n'allez quand même pas réduire l'amour d'amitié à 5 minutes passées avec l'ami. L'amour d'amitié est un absolu intérieur. La fin, qui est la personne de l'autre, qui est d'abord liée à son âme spirituelle. L'absolu humain qui est en lui, qui m'attire. Et la manière de l'exercer, le conditionnement pour le vivre, implique le temps, le lieu, les rencontres, etc., etc. Donc, tout un exercice particulier qui exige de moi des choix, et un choix absolu qui porte sur l'autre dans tout ce qu'il est, de manière concrète. J'accepte dans le choix toute la complexité des moyens et toute la complexité de l'exercice. Et donc, j'assume le conditionnement à la lumière de l'intention de vie que je poursuis. C'est pour ça que ça se rejoint dans l'amour d'amitié. Tout le conditionnement, toute la complexité humaine, grâce au choix, peut être assumé au niveau de l'intention de vie qui porte sur la fin. Et ça, c'est dans l'amour d'amitié que ça se réalise par rapport à une personne. Et c'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça que le Père Philippe vous donne cette orientation de dire que c'est l'amour d'amitié qui est vraiment source d'une véritable éthique, parce que le choix humain n'est parfait que là. Parce que c'est le choix où le moyen et la fin se rejoignent. Donc c'est le choix humain le plus absolu qu'on puisse poser. On va revenir par rapport à l'éthique religieuse. On verra que par rapport à Dieu, au sens strict, il n'y a pas de choix. Parce que le Créateur, c'est une découverte qui s'impose. Ce n'est pas un choix. J'accepte d'adorer. Donc, vous voyez, tandis que par rapport à la personne humaine, je choisis l'autre. Dans tout ce qu'il est, l'amour n'implique pas d'abstraction. Vous voyez, donc c'est intéressant peut-être de se poser, d'aller jusqu'au bout, puisque vous demandez... de mieux comprendre la distinction entre l'intention de vie et le choix, qui est la pièce maîtresse de l'éthique de la finalité. C'est de comprendre comment l'absolu de la fin assume dans le choix tout le conditionnement. Vous voyez, c'est là le rapport entre les deux. Entre la finalité et le conditionnement. C'est-à-dire la manière particulière de vivre de cette fin. Oui, c'est ce qu'on voit, vous voyez. Donc, ça veut dire que dans le choix, je vais... Dans chacun des choix que je pose, je vais me demander tout le temps comment je vis de cette fin qu'est l'amour d'amitié. Dans ce que je fais avec l'ami, est-ce que vraiment je poursuis cette fin? Est-ce que je vis de cette fin, de cet amour qui prend toute ma vie? Et c'est ça qui commande mon choix. Ce en vue de quoi? Vous voyez, quand vous posez un choix, vous devez toujours vous poser la question, pourquoi ce choix? C'est la question de l'éthique. Pourquoi je fais cet acte plutôt que cet autre-là? Pourquoi je m'engage de cette manière plutôt que cette autre-là? Et si c'est un choix délibéré, donc vraiment conscient et parfaitement volontaire, il engage votre responsabilité. Mais en fonction de quoi est-ce que vous choisissez? En fonction d'une fin sur laquelle porte votre intention de vie. Ce qui présuppose un amour spirituel. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'éthique sans amour spirituel. L'amour spirituel est le fondement de l'éthique. Et cet amour spirituel est pleinement vécu dans un amour d'amitié où le choix peut être parfaitement humain et où je m'engage pleinement. Donc vous voyez, je crois que c'est très intéressant de voir cette distance. Quand je dis qu'il n'y a pas d'éthique sans amour spirituel, c'est facile à comprendre. Il n'y a pas d'éthique sans acte volontaire. Or l'acte volontaire premier, c'est l'amour spirituel. Et il n'y a pas d'éthique de la vache, même folle. Parce que l'animal n'est pas capable d'un acte volontaire. Donc il n'y a pas d'éthique, il n'est pas moralement responsable. La vache qui traverse la route, qui provoque un accident, n'est pas responsable de son accident. Elle ne l'a pas fait volontairement. Et l'éthique suppose la volonté, qui est un acte humain, et l'amour spirituel. Et cela est parfaitement vécu dans un choix par rapport à une personne, ce qui présuppose une intention de vie. Donc d'avoir découvert dans l'amour spirituel un bien qui est une véritable fin pour moi, capable d'orienter toute ma vie. Et donc c'est très étonnant ça, hein, que dans l'ami, il y a à la fois cet absolu qui me dépasse, et celui avec qui je vis, celui avec qui je pose tel et tel acte, celui avec qui je travaille, celui que je rencontre. Ce qui implique des temps, des lieux, des circonstances particulières. Et cela demandera d'être parfaitement réalisé dans ce qu'on appelle l'imperium. L'imperium, qui est l'acte concret que je pose, qui présuppose un choix. Oui, j'espère que ça répond un petit peu à votre question. Donc je vais maintenant essayer de continuer un peu cette recherche que vous avez entreprise dans cette session. Mais on ne peut pas tout voir en 3 jours, c'est impossible. Donc on voit quelques aspects. Donc vous voyez, le premier grand moment fondamental d'une philosophie éthique, c'est bien une éthique humaine qui repose sur l'expérience de l'amour d'amitié. Et je crois que c'est très important de bien le mettre en lumière et d'insister beaucoup là-dessus. Et c'est une question qui est posée par beaucoup aujourd'hui. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut poser le problème pour commencer cette étude de l'éthique religieuse. Oui, certains posent le problème comme ça. N'y a-t-il d'éthique humaine que religieuse? C'est par exemple la position de Lévinas. Pour Lévinas, l'éthique humaine n'est une éthique humaine que si elle est religieuse. Ah oui, c'est intéressant de se poser le problème. Ou bien, faut-il d'abord découvrir une éthique humaine, fondamentale, celle de l'homme qui rencontre l'homme? Or, la rencontre de l'homme avec l'homme est parfaite dans l'amitié. Parce que ça implique un choix. Et puis, deuxièmement, une éthique humaine, on pourrait dire parfaite, ultime, qui est l'éthique religieuse. Vous voyez, autrement dit, là, il y a un débat intéressant qui n'est pas si commode. L'éthique humaine est-elle tout de suite une éthique religieuse? Ou bien faut-il d'abord découvrir une éthique humaine fondamentale et comprendre que l'éthique humaine est parfaite grâce à l'éthique religieuse? Oui, c'est la distinction entre le fondement et la finalité. Donc ici, il y a quelque chose d'intéressant. Vous voyez, je crois qu'on doit dire, il me semble que l'éthique humaine religieuse, si elle est première, alors elle devient une opinion. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'expérience de Dieu. Donc vous ne pouvez donc pas fonder toute l'éthique sur quelque chose qui n'implique pas d'expérience. Et dire que Dieu existe, pour le philosophe, c'est une découverte. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai l'expérience. Oui. Je n'ai pas expérimenté Dieu. Tandis que j'ai l'expérience de la rencontre d'une personne humaine. Et ça, tout homme peut l'avoir. C'est pour ça, vous voyez, si on commence l'éthique humaine par l'éthique religieuse, sans avoir posé le problème de l'existence de Dieu, mais on tombe dans une pure opinion. On dira, oui, c'est pour vous parce que vous croyez en Dieu, mais c'est votre problème. Puisque l'éthique humaine, elle s'intéresse à l'homme par rapport à sa question première, qui est le sens de sa vie. C'est la question de l'éthique. J'entre en philosophie éthique quand je m'interroge sur le sens de la vie de l'homme. Qu'est-ce qui donne son sens à ma vie? Pourquoi je vis? Quelle est la finalité de ma vie? Or, l'expérience première où on peut découvrir ça, c'est dans la rencontre de l'homme avec l'homme, où naît une certaine responsabilité morale. Et ça veut donc dire qu'on découvre ce que c'est que l'acte humain dans sa structure propre, dans l'éthique humaine de l'amour d'amitié, où l'homme rencontre une autre personne humaine. Et que cet acte humain trouvera une nouvelle perfection, un achèvement dans l'éthique religieuse qui va impliquer la découverte de l'existence de celui qu'on appelle Dieu. Et il y a donc là un passage qui n'est pas du tout commode. Comment comprendre ce passage d'une éthique humaine fondamentale qui repose sur l'expérience de l'amour d'amitié à une éthique humaine parfaite, ultime, qui reste humaine, qui n'est pas confessionnelle, qui est ce qu'on appelle l'éthique religieuse? Il y a là un passage très intéressant. Et puis, le troisième moment, hein, qui sera l'éthique chrétienne, qui n'est plus du tout le même passage. Oui, là, il y a quelque chose aussi de très important à bien voir. Le passage de l'éthique humaine fondamentale à l'éthique religieuse, c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant, hein, il est un passage nécessaire. Autrement dit, l'éthique humaine qu'on découvre fondamentalement par rapport à l'amour d'amitié ne peut être parfaite que dans une éthique religieuse. Ça veut donc dire, voyez, que si volontairement je refuse l'attitude religieuse, on va voir en quoi elle consiste, tôt ou tard, je détruis même l'éthique humaine. Par contre, l'éthique chrétienne n'implique pas de lien de nécessité, puisqu'elle présuppose la gratuité de la révélation. Et donc le passage n'est pas du tout le même. Entre l'éthique humaine fondamentale de l'amour d'amitié et l'éthique humaine religieuse, il y a une nécessité, c'est ce qu'on va découvrir. Parce que ça implique de découvrir l'existence de Dieu. Si, par contre, le passage de l'éthique humaine religieuse à l'éthique chrétienne n'est pas un passage nécessaire, c'est de l'ordre de la gratuité. Vous voyez, donc le statut épistémologique de ces trois niveaux n'est pas du tout le même. Ah oui, je reprends pour bien que vous voyez ce problème, parce qu'il est très délicat, et encore une fois, il est très contemporain. Hein. Ces problèmes, ne croyez pas que c'est un problème d'école. C'est très débattu, ça. C'est une des grandes questions de Lévinas aujourd'hui. Hein. Parce que c'est le problème de l'autre. Vous voyez, comment comprendre ce problème-là? Et je peux dire, hein, il existe une éthique humaine fondamentale pour l'homme qui n'a pas encore découvert Dieu. Oui, je suis responsable dans mes actes quotidiens. Et rencontrant une personne humaine, je suis capable d'une éthique humaine. Et l'homme qui n'a pas découvert Dieu, il est capable d'une éthique. Il pose des actes volontaires quand même, dans lesquels il est responsable. Et il s'engage librement. Ah oui, je ne reviens pas sur la question que vous avez étudiée, hein, qui est de voir que cette éthique humaine fondamentale est parfaitement vécue dans l'amour d'amitié. Ça, c'est la recherche. Ensuite, quand je découvre l'existence de Dieu, on va voir de quelle manière on peut le découvrir, de quelle manière on peut le dire. Il y a un nouveau problème qui se pose en éthique. C'est qu'est-ce que cette découverte change à mon activité morale? Oui, puisque je vais découvrir non plus seulement l'homme, mais je découvre un être premier, celui qu'on appelle Dieu. Et donc une nouvelle fin, une nouvelle finalité. Quelqu'un qui change le sens de ma vie. C'est ce que dit Dostoïevski. Hein. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, dit-il. Ça veut dire que quand on découvre l'existence de Dieu, le sens de la vie humaine change. Et c'est une découverte qui est très pratique. Donc, vous voyez, il y a donc ici un passage, mais c'est une découverte qui relève de l'intelligence. Je peux accepter ou refuser cela. Et donc, ce n'est pas tout à fait, hein, la même chose. Je dis, oui, il existe une éthique humaine fondamentale qui repose sur l'amour d'amitié. Si je découvre l'existence de Dieu et que j'accepte de reconnaître la dépendance par rapport au Dieu créateur, cela change l'éthique. Je l'accepte. Elle devient donc une éthique religieuse qui est une éthique humaine parfaite. Je vais développer ça tout à l'heure. Mais je peux très bien refuser cette dépendance. Oui, ce n'est pas la même chose d'ignorer que Dieu existe et de refuser, sachant que Dieu existe, de dépendre de lui. Ce n'est pas la même attitude, vous voyez. Ne sachant pas que Dieu existe, il existe une éthique humaine. Mais si j'ai découvert que Dieu existe, cela me pose un nouveau problème moral. Qu'est-ce que ça change à ma vie? Il n'y a plus seulement une découverte intellectuelle, il y a une question qui engage ma vie pratique. Et là, je peux accepter cette dépendance par rapport à l'existence de l'être premier créateur, ou la refuser. C'est très intéressant comme problème. L'accepter, c'est ce qu'on appelle l'adoration. L'acte d'adoration, c'est reconnaître volontairement, dans l'amour, cette dépendance actuelle par rapport à celui qui est l'être premier, le Créateur. Donc on va se poser la question tout à l'heure, qu'est-ce que l'adoration change à notre vie morale, et spécialement à l'expérience de l'amour d'amitié? Qu'est-ce que d'avoir découvert l'existence de Dieu et d'accepter de dépendre de lui dans l'adoration, transforme dans mon amour d'amitié, donc dans mes rapports avec l'autre. Ou bien je peux dire, je sais que Dieu existe, mais je ne m'en occupe pas, donc vous voyez, je reste dans l'indifférence. Ou bien je refuse cette dépendance, et dans une attitude orgueilleuse. Oui, est-ce que alors il peut encore exister une véritable éthique? Est-ce que, sachant que Dieu existe et refusant de dépendre de lui dans un acte volontaire, il peut encore y avoir une éthique? Et c'est une question qui est difficile, vous voyez. Je dis bien, l'homme qui n'a pas découvert Dieu, il a une véritable éthique parce qu'il n'a pas encore découvert, il cherche la vérité. Mais si, ayant découvert la vérité, je le refuse, est-ce qu'il n'y a pas alors un acte volontaire qui fausse radicalement toute éthique, puisque ça engage une attitude orgueilleuse, vous voyez. Et donc là, il y a un débat qui n'est pas du tout facile, vous voyez, et qui est aussi très contemporain, parce que c'est tout le problème de la laïcité. Hein. Est-ce que la laïcité est humaine ? Vous voyez qu'il y a tout de suite deux types de laïcité. Il y a la laïcité de celui qui n'a pas découvert Dieu et qui vit une éthique humaine fondamentale dans le respect de l'autre. Celle-là, elle est digne de respect. Mais la laïcité qui consiste à refuser la présence et l'existence de Dieu, elle est plus humaine. Elle est contraire à l'homme. Elle est une mutilation. Parce que c'est refuser à l'homme de dépendre de sa source première, qui est le Créateur. Et donc, ce n'est pas commode, parce que ça exige de comprendre intellectuellement l'importance de cette découverte de l'existence de Dieu. Vous voyez, là, il y a le premier grand problème qu'il va falloir poser. En revanche, vous voyez, l'éthique chrétienne, et vous le reverrez dimanche, hein, l'éthique chrétienne implique une gratuité, parce qu'elle vient d'en haut. C'est Dieu qui parle à l'homme. Tandis que dans l'éthique religieuse, c'est l'homme qui cherche Dieu. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Dans l'attitude religieuse, l'homme se tourne vers Dieu, se tourne vers celui qu'on appelle Dieu, vers sa source. Dans l'éthique chrétienne, dans l'attitude chrétienne, c'est Dieu qui vient vers l'homme, qui se révèle à lui, et qui attend de lui l'attitude de la foi. Donc c'est dans une gratuité complète. Donc, oui, pour le philosophe, ce n'est pas du tout la même nécessité. Le passage de l'éthique humaine fondamentale à l'éthique religieuse est nécessaire, philosophiquement parlant. Autrement dit, l'attitude religieuse est humaine. L'homme est naturellement un être religieux, fait pour adorer le Créateur. Et c'est ça l'éthique religieuse qu'on va découvrir ensemble. Tandis que l'homme chrétien, c'est le bon plaisir de Dieu, oui, c'est la révélation. Ce n'est pas une nécessité humaine. Oui. C'est pas, en scrutant l'homme, vous ne trouverez pas le Christ. Parce que le Christ, c'est Dieu fait homme. Par contre, l'homme exige que vous découvriez Dieu comme Créateur. Donc c'est très important, vous voyez, de distinguer ces trois niveaux et de ne pas confondre les rapports entre les trois. Donc, vous voyez, il y a un premier problème que je veux donc essayer de poser avec vous, c'est cela. Hein. Comment s'impose et comment découvrons-nous le passage d'une éthique humaine fondamentale à une éthique religieuse, qui est une éthique humaine parfaite, ultime, pleinement humaine. Dire ça, vous voyez, ça veut dire que l'homme n'est parfaitement humain comme homme, que quand il a découvert l'existence de Dieu et qu'il reconnaît cette dépendance par rapport au Créateur. Donc oui, je vais d'abord essayer de montrer ça, ce dépassement, ce passage, et puis ensuite on verra toutes les conséquences que cette découverte et que l'acte d'adoration va avoir dans notre vie morale. Oui, donc premier problème, hein, ce passage-là. Comment comprendre le passage d'une éthique humaine fondamentale à une éthique religieuse? Oui, je crois qu'on peut dire que l'éthique religieuse, vous voyez, elle va impliquer la découverte d'une nouvelle finalité. Et donc, elle présuppose la découverte, donc, si vous voulez, la connaissance de l'existence de Dieu. Autrement dit, vous voyez, si c'est une éthique, on a vu tout à l'heure, on l'a rappelé, hein, que l'éthique suppose l'amour spirituel. Donc, parler d'une éthique religieuse implique un acte volontaire de l'homme, qui est un acte d'amour. C'est une nouvelle éthique si ça porte sur une nouvelle fin. Il faut donc, avant tout amour, avoir une certaine connaissance de Dieu. L'amour que l'homme a pour Dieu, qui est l'adoration, présuppose une certaine connaissance de l'existence de Dieu et de celui qu'on appelle le Créateur. Et cette connaissance, elle est double. Donc l'éthique religieuse va impliquer comme deux connaissances qui vont permettre qu'on découvre un nouvel amour, donc une nouvelle fin, cet amour étant l'adoration. voyez, cette connaissance de l'existence de Dieu comme créateur, c'est ou bien celle des traditions religieuses, ou bien celle de la philosophie. Et quand je dis ou bien, ça n'est pas exclusif. Oui, de fait, oui. Nous vivons dans un contexte qui implique des traditions religieuses. Et les traditions religieuses sont premières par rapport à une philosophie. La philosophie grecque est née dans un contexte de tradition religieuse. Avant qu'on soit philosophe, avant que la philosophie soit née, il y avait des traditions religieuses grecques. Hésiode est le premier qui montre cela. 8e siècle avant Jésus-Christ, il montre comment pouvons-nous essayer d'ordonner la mythologie, les mythes grecs. Il y a des traditions multiples sur les dieux. Comment pouvons-nous purifier cela? Il y a des traditions religieuses et qui varient selon les pays. La tradition religieuse musulmane, hindouiste, etc. Et toutes les traditions religieuses humaines qui sont le fondement et la source souvent de toutes les grandes cultures. Les traditions religieuses, de fait, véhiculent une certaine connaissance de Dieu. Et puis, il y a un regard philosophique. Oui, alors, quelle est la différence entre les deux? Oui, c'est très intéressant à étudier, ça. Oui. Du point de vue spéculatif, oui, du point de vue de la vérité, les traditions religieuses véhiculent une certaine connaissance de Dieu qui doit être critiquée par la philosophie. Le philosophe critique les traditions religieuses. Parce qu'il se demande, est-ce que ces traditions religieuses qui parlent d'un dieu ou des dieux, oui, et de quantité de sous un langage symbolique, est-ce que ces traditions religieuses sont des mythes ou bien est-ce qu'elles communiquent une certaine vérité? C'est comme ça que la philosophie est née. Hésiode commence la philosophie parce qu'il se demande qu'est-ce qui est vrai dans toutes les traditions religieuses que véhicule la mythologie grecque. Qu'est-ce qui est vrai dans tout cela? Et le philosophe va plus loin que les traditions religieuses. C'est pour ça que c'est si important de ne pas confondre les traditions religieuses et la foi. Les traditions religieuses sont humaines. La foi vient d'en haut. C'est pas la même chose, vous voyez. On ne critique pas la foi par la philosophie. Mais on critique les traditions religieuses parce qu'elles viennent des hommes. Et des hommes qui véhiculent une certaine vérité sous un langage mythique, symbolique, poétique, qui demande d'être scruté pour est-ce que dans tout cela il y a quelque chose de vrai ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses imaginatives? Vous savez ce que dit Xénophane de Colophon, Xénophane, c'est un philosophe grec. Xénophane de Colophon. C'est 6e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est un aède, c'est-à-dire un troubadour, qui va de cité en cité en déclamant des poèmes qui ont un contenu philosophique et religieux. Et Xénophane est le premier à parler d'un dieu unique en philosophie. C'est pour ça qu'il est tellement important. Et il a cette petite remarque très jolie. Il dit, les hommes font toujours que Dieu est à leur image. Les hommes se représentent Dieu sous une forme humaine. Alors il dit, c'est pour ça que pour les Éthiopiens, leurs dieux sont noirs et ont les cheveux crépus, et pour les Thraces, leurs dieux sont blancs et ont les cheveux roux, et les yeux bleus. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Alors il dit, Dieu ne peut pas être représenté, il est esprit. Et si les éléphants avaient des dieux, il ferait que les dieux ont des formes d'éléphants. Dit Xénophane, pour montrer ce que c'est que l'anthropomorphisme. Oui. L'anthropomorphisme, c'est quoi? C'est dans ces mythes, dans ces traditions, tout un langage humain sur les dieux, où on projette sur Dieu des sentiments humains. Ce qu'on voit encore chez Hésiode, Hésiode qui montre des jalousies terribles entre les dieux, des rivalités, des meurtres, des bagarres, c'est extraordinaire. Il y a tout un imaginaire religieux, vous voyez. Et le philosophe s'intéresse à ça. Et il a comme interrogation, qu'est-ce qui est vrai dans tout cela? Donc, qu'est-ce qui doit être montré comme étant un contenu imaginatif, et qu'est-ce qui véhicule une certaine vérité sur Dieu? Donc vous voyez, au point de vue philosophique de la connaissance de Dieu, la philosophie critique les traditions religieuses. Mais du point de vue pratique, les traditions religieuses ne suffisent-elles pas à poser un acte d'adoration? C'est très important de distinguer ici. Du point de vue de la recherche de la vérité, on doit avoir le souci de s'interroger sur la vérité des traditions religieuses. Mais du point de vue pratique, prudentiel, je dois tenir compte du fait qu'il existe des traditions religieuses. Et donc, que nier a priori l'existence de Dieu n'est pas prudent. Et ça, c'est ce que Pascal a pigé dans le pari. Le pari de Pascal, il est vrai du point de vue pratique. Si Dieu existe, il vaut mieux agir comme s'il existe que s'il n'existait pas. Et ça, c'est de l'ordre de la prudence, voyez. Pas de la prudence de celui qui ménage ses arrières, c'est pas ça du tout. La prudence de celui de l'intelligence pratique. Voyez. Si Dieu existe, ce serait bien dommage de mener ma vie comme s'il n'existait pas. Ce serait follement imprudent. Parce que je passe à côté de quelque chose qui est sûrement très important pour l'homme. Voyez, je n'ai donc pas le droit, a priori, de vivre comme si Dieu n'existait pas. Je dois au moins me poser la question. Voyez. Au point de vue pratique, ça suffit. Hein. Et il y a donc là, ici, vous voyez, une distinction très très grande, hein, évidemment, quand je dis ça, ça présuppose beaucoup de choses, mais une distinction très grande entre l'attitude pratique de l'homme au niveau éthique, dans l'acte d'adoration, et la recherche philosophique de la métaphysique, qui, au contraire, a comme premier souci de voir qu'est-ce qu'il y a de vrai dans les traditions religieuses. Les deux ne sont pas contradictoires, vous voyez. Parce que chercher en métaphysique à purifier les traditions religieuses, donc grâce à la philosophie, va permettre à mon adoration d'être beaucoup plus pure, beaucoup plus humaine. Plus mon intelligence découvre la vérité, plus mon attitude pratique d'adoration par rapport à Dieu peut être profonde, vraie et personnelle. Oui, mais la découverte intellectuelle de l'existence de Dieu n'est pas forcément nécessaire pour adorer, sinon on pouvait toujours attendre. Quand, vous savez, quand Aristote dit hein, qu'on est métaphysicien qu'à 45 ans, ça veut dire qu'il hein, estime qu'on ne peut vraiment entrer dans la sagesse philosophique qu'à 45 ans. Il faut avoir une certaine maturité humaine, avoir dépassé beaucoup de limites humaines. Et, bien, alors vous allez dire, donc à un enfant, vous allez dire, ah oui, alors, hein, tu attendras d'avoir 45 ans pour adorer. Mais non. Et, au point de vue prudentiel, hein, sachant que Dieu existe, on adore et on rejoint cette présence de Dieu comme créateur, même si on n'a pas encore découvert complètement intellectuellement cette nécessité d'existence de Dieu. Oui. Donc il y a une différence très très nette entre le point de vue pratique et le point de vue spéculatif. Oui. C'est comme pour, oui, au point de vue même d'une éthique humaine familiale, vous n'allez pas dire à un enfant, écoute, hein, on va attendre que tu comprennes ça pour que tu le fasses. Mais non, tant qu'il ne comprend pas, on le fait obéir, c'est tout. Et c'est très important de voir ça, la place de l'obéissance dans l'éducation. Si vous attendez que l'enfant ait tout compris pour qu'il fasse quelque chose, vous pouvez toujours attendre. L'obéissance éduque, parce qu'elle est au point de vue pratique. C'est pareil au point de vue religieux. J'adore avant d'avoir découvert l'existence de Dieu comme créateur par mon intelligence métaphysique. Parce qu'il y a très peu d'hommes qui le découvrent. Vous voyez ? Donc, vous voyez, s'il fallait attendre ça pour vraiment adorer, vous voyez, alors l'attitude religieuse serait très difficile. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis bien hein, que l'adoration va comme avoir deux sources. Les traditions religieuses, qui sont comme le climat affectif et humain qui enveloppe l'attitude religieuse. Et puis, la connaissance philosophique de l'existence de Dieu, sur laquelle je reviendrai, qui va venir purifier et approfondir mon adoration. Mais ne disons pas qu'il n'y a que la philosophie qui conduit à l'adoration. Du point de vue prudentiel et pratique, les traditions religieuses suffisent à poser un acte d'adoration. Elles enveloppent la volonté de l'homme. Vous voyez, d'où l'importance, vous voyez, et d'où le problème si crucial de la laïcité. Parce que faire vivre quelqu'un dans un climat a-religieux, donc où on veut supprimer toutes les traditions religieuses, c'est empêcher l'homme d'avoir un climat affectif qu'il apprenne à adorer, donc à découvrir la présence de Dieu comme créateur. Et ça a des conséquences pratiques énormes. Oui, c'est pour ça que la laïcité n'est pas humaine, parce qu'elle, j'allais dire, elle stérilise le climat humain. Oui, le climat humain et culturel, pleinement humain, hein, il implique une attitude, une dimension religieuse, donc des traditions religieuses qui façonnent la vie d'un homme, qui l'enveloppe et à l'intérieur duquel il peut se développer et progressivement, par son intelligence philosophique, critiquer ces traditions en voyant ce qu'elles ont de juste, donc les purifier. Oui. Les traditions ne sont vraies que quand on les purifie constamment, remontant constamment à la source. Oui. La tradition se sclérose quand elle se répète matériellement. Mais d'où les déviations religieuses qu'on peut constater. Voyez, hein. Je me rappelle dans une ville comme ça, où j'habitais il y a quelques années, il y avait une secte des adorateurs de l'oignon. Voyez. C'est une fameuse déviation d'attitude religieuse, voyez. C'est très imaginatif. Hein. Parce que la raison, c'est parce que l'oignon se régénère lui-même. Vous voyez, symbole de la vie. Hein. C'est un peu juste. Hein. Non, mais c'est important, vous voyez, de voir ça, parce que c'est un des grands débats d'aujourd'hui. Hein. C'est la place de l'attitude religieuse, du climat religieux par rapport à la vie morale et aussi par rapport au point de vue politique. Vous voyez, donc, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, hein, ce soir. On essaiera de voir comment le passage de l'éthique humaine fondamentale, donc de l'homme qui rencontre l'homme, est comme ouverte à un dépassement, d'abord grâce aux traditions religieuses, et va trouver la nécessité de ce dépassement grâce à la connaissance philosophique qui découvrira l'existence de Dieu comme créateur. Et si je découvre intellectuellement qu'il est nécessaire d'affirmer qu'il existe un être premier créateur, celui qu'on appelle Dieu, cela induit, exige une attitude pratique qui va modifier ma vie morale, qui va lui donner une nouvelle dimension, qui va donc achever ma vie humaine. Et donc, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Hein. Réfléchissez. Alors, n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, vous les écrivez, vous les posez sur le bureau. Hein. Parce que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou bien qui sont dites trop rapidement, n'hésitez pas à le dire. J'aimerais qu'on vienne sur ce point. Hein. Oui, je parle rapidement, mais il y a beaucoup de matière. Hein. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.